Chaque jour en France, plus de 600 personnes apprennent qu'elles sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Au niveau mondial, l'épidémie est estimée à 35 millions de malades et il est attendu que ce chiffre double tous les 20 ans. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de familles qui sont concernées de près et qui doivent aider chaque jour leurs proches. À l'occasion de cette journée, l'association France Alzheimer lance une mobilisation générale pour éviter le burn-out des aidants. Et avec mes invités, nous verrons quel est le quotidien des familles. Nous nous intéresserons à la parole des malades et puis bien sûr, nous ferons un point sur la recherche. Avec vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. À la une de la science, Axel Villard, l'Europe qui affirme ses volontés dans sa lutte pour le climat.
Et oui, Mathieu, la conférence de Paris approche, elle s'ouvrira le 30 novembre et les 28 États membres de l'UE confirment leurs engagements. Réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Par exemple, on fait le tour des propositions dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Voilà pour le sommaire de cette tête au carré. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Margot Dulard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Aujourd'hui donc 21 septembre, journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. C'est donc le dossier de l'émission avec mes invités, le professeur Mathieu Sekeldi, Emmanuel Hirsch et Joël Jaouen. Bonjour à tous les trois. Bienvenue, professeur Sekeldi. Annoncer le diagnostic de la maladie à une personne sans pouvoir lui proposer de traitement efficace, c'est la situation justement à laquelle doivent faire face les médecins aujourd'hui. C'est une situation extrêmement délicate.
On annonce le diagnostic de la maladie, on ne guérit pas mais on soigne. Donc il y a une prise en soin et donc cela est très important.
L'absence de médicaments, c'est un problème?
C'est un vrai problème, mais ça va évoluer.
Emmanuel Hirsch, donner la parole aux malades justement pour comprendre ce qu'ils vivent, ça c'est quelque chose de nouveau.
La société se mobilise. Il faut qu'elle soit raisonnée par une parole qu'elle n'écoute pas. Effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est souvent assimilé à la démence, à la perte de l'autonomie, à l'altération des fonctions cognitives, alors qu'on a des personnes qui vivent longtemps, qui veulent vivre avec la société, qui veulent vivre reconnues dans la société, qui veulent appartenir. Et c'est, j'imagine, ce qu'on évoquera, c'est à la fois les personnes malades, leurs proches, puisque... Comme le dit très bien France Alzheimer, une personne malade, c'est aussi tout un environnement qui est impacté par la maladie. Bref, comment notre société se mobilise aujourd'hui, au moment où on nous parle de refondation de la République? C'est une vraie question que je me pose le 21 septembre.
Et ce sont des personnes qui ont des choses à dire sur elles-mêmes et sur leur maladie et sur leurs proches. Joël Jaouen, une des conséquences méconnues de la maladie, c'est l'épuisement des aidants.
Tout à fait. Et c'est l'occasion pour nous, de ce 21 septembre, justement, de parler des difficultés au quotidien rencontrées par les aidants. Sachant qu'il y a un chiffre terrible, c'est la quantité de... Le curseur est entre 30 et 40% d'aidants qui peuvent partir avant l'aider par épuisement.
On va se retrouver dans quelques instants pour en discuter avec vous. Dossier donc Alzheimer avec bien sûr les questions et les témoignages des auditeurs. C'était vendredi soir, les 28 ministres de l'Environnement de l'Union européenne présentaient leurs objectifs en vue de la COP21 et c'est à la une de la science aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'Union européenne a adopté un mandat fort et responsable en vue de la conférence sur le climat de Paris. Cela montre notre vision pour le nouvel accord climatique.
Nous sommes unis, c'est ce qui est le plus important, et nous sommes prêts, ce que notre présidente a très bien dit, à conclure un accord climatique mondial ambitieux, vaste et contraignant. Rien de moins.
Et c'était la ministre de l'Environnement luxembourgeoise et le commissaire européen chargé au climat vendredi lors d'une conférence de presse. 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030, zéro CO2 d'ici 2100. Voilà ce que défendra l'Europe. C'est ambitieux à la table des négociations pour la COP21. Bonjour Eric Kempf.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes journaliste spécialisé environnement pour le site Reporter et par téléphone nous sommes avec Célia Gauthier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des politiques européennes pour le réseau Action Climat France. Hervé Kempf, 40% d'émissions de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. Franchement, vous pensez que l'Europe est capable de tenir cet objectif?
Oui, tout à fait. C'est un objectif qui ne date pas de vendredi, était déjà acté depuis un an en octobre. C'est le paquet énergie-climat pour 2030. C'est la suite du premier pas qui avait été pris il y a quelques années, qui était le paquet énergie-climat 2020, et où l'Union européenne s'était engagée collectivement à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Et on en est déjà à 19%. Donc on est sur le chemin et cet objectif de 40% de réduction des gaz à effet de serre
en 2030
paraît tout à fait tenable. Je pense que tous les spécialistes et les experts en sont d'accord. Mm-hmm. Et il y a même un certain nombre de personnes, peut-être Célia Gauthier le dira, je ne sais pas, qui estiment que l'Union européenne aurait pu aller plus loin parce que l'objectif qui a été rappelé d'ailleurs dans le communiqué du Conseil de l'Union européenne dit qu'il faut réduire de 80% en 2050. Et certains disent qu'entre 2030 et 2050, on laisse trop de chemin à parcourir.
Oui, Axel. Célia Gauthier, justement, pour vous, c'est insatisfaisant?
Effectivement, si on regarde le potentiel de développement des énergies renouvelables en Europe, et notamment les économies d'énergie qu'il serait possible de réaliser, tout ça évidemment étant très utile pour l'Europe puisqu'elle elle ne produit pas d'énergie, elle importe massivement des énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon d'ailleurs, eh bien aller plus loin sur les énergies renouvelables et les économies d'énergie, ça aurait été possible, et donc cela aurait permis d'aller encore plus loin sur la réduction des gaz à effet de serre. Donc si vous voulez, cet accord européen sur le 40%, qui date de fin 2014, est un minimum. Et c'est aussi le résultat d'un compromis politique, puisque au sein de l'Union européenne et des 28 États membres, il y a des États qui ont déjà commencé leur transition énergétique, hein, comme les pays scandinaves, l'Allemagne, en France, on en est encore au tout début, et puis des États qui sont très dépendants des énergies sales, comme le charbon, comme la Pologne notamment, et évidemment, faute d'accord pour l'ambition, on tombe sur un compromis qui est relativement modeste, mais comparable à ce que d'autres grands pays industrialisés ont proposé pour la conférence de Paris, comme les États-Unis ou d'autres. Et résultat, avec ce que proposent tous les pays riches aujourd'hui, on se dirige vers un réchauffement d'environ 3 degrés par rapport à avant la période pré-industrielle, avant la période industrielle, pardon. Et 3 degrés, c'est au-delà de ce que les scientifiques nous disent qu'il faudrait faire, c'est-à-dire au maximum 2 degrés de réchauffement pour éviter des conséquences climatiques catastrophiques.
Et en 2100, le CO2 aura totalement disparu, avec EMF ?
Non, parce que vous savez que le CO2, le dioxyde de carbone, a une durée de rémanence dans l'atmosphère qui est très longue, qui est de l'ordre d'une centaine d'années. Mais on peut espérer, c'est l'objectif, que les émissions de gaz carbonique et d'autres gaz à effet de serre seront revenues à zéro en 2100. Si vous me donnez un instant, pour bien comprendre le caractère relativement insatisfaisant de l'Union européenne, comme vient de le rappeler Célia Gauthier, il faut comparer aussi que l'Union européenne se dit « mais que font les autres grands blocs ?» Les États-Unis notamment, et la Chine. Or, les États-Unis, il faut le préciser, n'ont pas un objectif aussi ambitieux que celui de l'Union européenne. Ils se sont fixés 28% de réduction en 2025, mais par rapport à 2005. Alors que l'objectif européen est par rapport à 1990. Autrement dit, l'effort des États-Unis est beaucoup plus faible que celui de l'Union européenne. Et beaucoup de gens, des États et des grandes entreprises au sein de l'Union européenne disent « si vous nous mettez des contraintes trop fortes, il faut que ce soit aussi le cas chez nos principaux partenaires économiques. »
Malgré les messages d'Obama laissant penser que les États-Unis allaient faire beaucoup d'efforts.
Il a fait un petit effort supplémentaire dans un plan qu'il a dévoilé le 3 août précisément, où il progresse de 2% par rapport aux chiffres que je vous ai donnés. Mais le contexte politique aux États-Unis est très difficile. Et à la différence de l'Union européenne, où il n'y a pas de débat véritable sur la nécessité d'aller dans un effort, aux États-Unis, il y a toujours notamment du côté des républicains, du parti républicain, et de Donald Trump, par exemple, un climato-scepticisme qui est toujours très prégnant au niveau politique.
Avec un pays qui est le plus gros émetteur de CO2 au
qui
monde.
Reste le deuxième plus gros émetteur après la Chine.
Ouais. Gauthier. Il y a un autre point clé.
Le problème aux États-Unis, si vous me le permettez, c'est que les États-Unis n'ont rien fait pendant des décennies. L'Europe a commencé déjà à mettre en place des politiques publiques pour aller vers des énergies renouvelables, notamment aux États-Unis, il ne s'est rien passé pendant des années et pourtant ils continuent à polluer. Donc leur responsabilité aujourd'hui dans les changements climatiques est très importante. Donc même si Obama essaie d'accélérer un petit peu les choses, ça suffit pas par rapport à leur responsabilité historique. Et la responsabilité historique, c'est un point important de la négociation internationale qui va mener jusqu'à la conférence de Paris. Et donc, il faudrait que les États-Unis, mais aussi les autres grands pays émetteurs, on peut citer aussi le Canada et l'Australie, le Japon, qui sont de très mauvais élèves, fassent plus et montrent plus d'ouverture pour assumer leurs responsabilités.
Allez, une dernière question pour
Hervé Kempf, il y a un autre point important à venir de cette conférence de Paris, c'est le soutien financier apporté aux pays pauvres pour enclencher une transition énergétique. Est-ce que l'Europe s'est mis d'accord sur ce sujet-là?
Elle s'est mise d'accord sur l'intention, ce qui est très bien. Elle s'est dit, il faut arriver à un accord. Dans quel contexte? Dans un contexte qui a été décidé internationalement à la conférence des Nations Unies de Copenhague en 2009 et qui disait, à partir de 2020, les pays riches alloueront, donneront, prêteront 100 milliards de dollars chaque année pour aider les pays pauvres à faire face aux conséquences du changement climatique. Mmh. Pour l'instant, on en est loin, et même l'Europe qui a signifié cette intention n'arrive pas à se mettre d'accord sur un instrument qui serait sans doute l'instrument essentiel pour arriver à cet objectif financier d'aide aux pays pauvres, qui est la taxe sur les transactions financières. Pour l'instant, on n'en est pas du tout à la mettre en œuvre, ni même à la décider de son principe et de son contenu.
Vous êtes sur le pont avec reporter Hervé Kem, j'imagine.
C'est le quotidien de l'écologie, évidemment, a toujours eu le climat dans son ADN et alors on là, travaille énormément.
Vous
et
avez beaucoup de boulot.
Absolument.
Reporter.fr hein, pour,
.net
pour ceux qui souhaitent vous suivre. Et puis Célia Gauthier, le réseau Action Climat. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés à la une de la science. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour commencer, puisque la planète Mercure ne va pas nous tomber sur la tête. C'était pourtant le scénario probable qu'avaient prédit les scientifiques il y a quelques années. Mais de nouvelles simulations réalisées par l'université d'Hawaï montrent que nous devrions éviter la catastrophe. Selon les premières théories, Mercure devait être attiré par la gravité de Jupiter, puis s'écraser sur la Terre d'ici 5 milliards d'années. Sur 1600 simulations de l'avenir du système solaire, aucune ne montre ce scénario catastrophe. L'orbite de notre planète devrait être stable quant à elle pendant encore plusieurs milliards d'années. L'Australie pourrait-elle interdire la pratique de la boxe après le décès il y a quelques jours d'un jeune boxeur des suites d'un chaos? Une association australienne de médecins a réclamé l'interdiction pure et simple de ce sport de combat. Selon le docteur Stephen Parnis, la pratique de la boxe entraîne des lésions cérébrales irréversibles, pouvant parfois entraîner la mort. Et puis on ne les pensait pas capables d'émettre des sons, et pourtant les girafes fredonnent. Dans une étude publiée dans le journal Biomed, des chercheurs ont analysé pendant 7 mois le comportement des girafes à Camelopardalis. Jusqu'ici, on pensait que les girafes ne pouvaient pas générer assez d'air à travers leur long cou pour émettre des vocalisations. Mais après l'analyse de 947 heures d'enregistrement dans 3 zoos d'Europe, il semblerait que les girafes se mettent à bavarder discrètement dès la nuit tombée. Voici donc en exclusivité, tendez bien les oreilles dans la tête au carré, le fredonnement de la girafe. Attention, ça ne dure que quelques secondes. Voilà, c'était donc le son de la girafe enregistré pour la toute première fois. Et c'était dans l'actualité scientifique de cette semaine. Journée mondiale Alzheimer, c'est le dossier dans un instant de la tête au carré avec vos messages, vos questions, franceinter.fr. Se refait et son fils. c'est Paradis à l'instant.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Journée mondiale donc de la maladie d'Alzheimer en ce 21 septembre. Dossier avec mes invités pour parler donc des recherches sur la maladie, la parole des malades, l'aide aux aidants et mes invités. Le professeur Mathieu Secaldi, vous êtes neurologue et chef du service de neurologie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et vous êtes coordinateur du centre mémoire de ressources et de recherche Alzheimer pour la région PACA Ouest. Emmanuel Hirsch, vous êtes le directeur de l'espace régional de réflexion éthique Île-de-France. Et puis Joël Jaouen, vous êtes depuis le mois de juin le nouveau président de l'association Alzheimer. Les questions et les témoignages donc arrivent déjà sur franceinter.fr et le compte Twitter de l'émission avec le mot-clé « l'attaque ». Joël Jaouen, vous revenez du village Alzheimer, donc, qui s'est installé depuis samedi, c'est ça, hein, place de la bataille de Stalingrad à Paris, à l'initiative de votre association. Donc c'est un lieu d'information vraiment pour les familles,
hein. Un lieu d'information, un lieu de conférence, un lieu de découverte pour beaucoup d'aidants de ce qui est à la disposition de l'aidant. Un village très animé et qui nous fait énormément plaisir, très fréquenté.
Et vous y allez jusqu'à ce soir, hein, c'est ça, encore et quelques heures
jusqu'à ce
pour
soir,
ceux qui souhaitent vous rejoindre.
Aussi, Emmanuel c'est Hirsch. Un lieu dans la cité et j'y suis allé moi dimanche, les gens circulent et quand on nous parle d'ostracisme à l'égard des personnes atteintes de maladies neurologiques dégénératives ou de maladies d'Alzheimer, on voit à quel point quand il y a une initiative au cœur de la cité,
les
la cité
là,
répond
hein.
présent.
Tout à fait.
Les chiffres de cette maladie sont très impressionnants par leur ampleur. Il faut le rappeler, professeur Secaldi, 855 000 personnes malades en France, 225 000 nouveaux cas déclarés par an, 600 donc nouveaux par jour. Et en 2020, 1 300 000 personnes de plus de 65 ans seront atteintes dans notre pays. Alzheimer, c'est une épidémie, clairement, qui ne cesse de gagner du terrain. Est-ce que l'augmentation de l'espérance de vie est la principale explication ou pas?
Oui, un peu peur, surtout qu'on a l'arrière-pensée de la contagion. Oui, Alzheimer n'est pas contagieux.
Oui, surtout qu'il y a une publication qui pouvait semer le trou il y a quelques jours.
Je sais que vous l'avez déjà évoqué, mais le premier facteur de risque, c'est l'âge, effectivement. C'est le fait de prendre de l'âge. Plus on vit longtemps, plus on a de risque, effectivement, d'être touché par cette pathologie. Ça, à peu près un quart des personnes de plus de 80 ans ont un risque, effectivement, de développer la maladie.
Ouais, et 35 millions de personnes donc touchées dans le monde.
Un peu plus, même probablement, d'après l'IDI, c'est plus 46, 47 millions de personnes.
Ah oui, effectivement. Ouais. Et ce chiffre double tous les 20 ans, ça, ce sont les prévisions aussi.
Oui, et ça c'est un des effets aussi de l'augmentation de la prévalence de la maladie dans les pays en voie d'émergence, dont l'espérance de vie augmente aussi, et donc il y a effectivement une somme de patients à venir dans ces pays-là.
Christophe demande sur Twitter, est-ce que la maladie est récente ou est-ce que finalement elle a toujours existé? On parlait de personnes séniles à l'époque, dit-il.
Oui, absolument. Alors elle a toujours existé, simplement comme elle est liée à l'augmentation de l'espérance de vie, évidemment, on en avait beaucoup moins avant. Et effectivement, pendant longtemps, on pensait que la maladie d'Alzheimer était une maladie rare qui touchait uniquement des personnes de 50 ans. Et on parlait de démence sénile pour ceux qui étaient plus âgés, qui avaient des problèmes cognitifs. En réalité, on sait maintenant que les lésions sont très similaires et on a regroupé l'ensemble sous le nom de maladie d'Alzheimer. Ce qui ne gomme pas les différences qu'il peut y avoir entre des malades jeunes, des malades plus âgés.
Alors ce n'est
pas un ensemble homogène, c'est vraiment un ensemble hétérogène.
Ouais. Est-ce qu'on voit des personnes de plus en plus jeunes également touchées par la maladie ou finalement sur ce terrain-là, il n'y a pas tellement d'augmentation?
Non, on dira simplement qu'on les diagnostique mieux puisque maintenant on connaît certains gènes pour certaines formes familiales et on a des moyens plus sûrs d'évoquer ce diagnostic actuellement qu'on ne le faisait chez des personnes jeunes.
Ouais. Oui, ce sont des problématiques aussi qui se posent justement, Emmanuel Hirsch, pour les personnes de plus en plus jeunes.
La question des personnes jeunes a été posée dans le plan Alzheimer 2008-2012. Où il y a des équipes qui travaillent spécifiquement cette réalité, et on s'est rendu compte que c'était pas uniquement les maladies du grand âge. Et ça renouvelait aussi l'image de la maladie. C'est une maladie au long cours, et les réponses pour personnes jeunes sont un peu différentes de personnes âgées.
Ouais.
Et donc, on a vu émerger effectivement d'abord d'autres types de revendications, notamment dans l'accueil dans des institutions, quand la personne n'est plus en capacité de rester au domicile. Une grande partie de la vie avec la maladie, c'est une 10, 12, 15 ans, se passera quand même dans un environnement qui est l'environnement familial. Mais à un moment donné, quelquefois, il faut envisager une institution. Et là, on a des très belles initiatives du fait du plan 2008-2012, notamment de structures pour personnes, entre guillemets, plus jeunes. Il faut préciser, plus jeunes, c'est en dessous de 60 ans. Enfin, je veux dire, c'est à la limite.
C'est large.
Voilà. En tous les cas, ça a renouvelé une dimension, notamment du discours des personnes malades.
Alors c'est ça, justement. Est-ce que dans l'enquête dont on va parler avec vous dans la deuxième partie, on a aussi interrogé ces personnes plus jeunes, ces malades qui parlent d'eux-mêmes?
Je pense qu'on assiste, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos autres interlocuteurs, mais on assiste à une révolution un peu comme dans les années SIDA, si on veut. Il y a l'émergence d'une parole différente. Pendant des années, France Alzheimer a assumé avec vraiment un talent, et on voit la réussite de l'association, la parole de l'aidant, du proche. Aujourd'hui, il y a l'irruption d'une parole différente de la personne malade qui veut vivre sa vie, qui veut rendre le pouvoir sur sa destinée, quelle que soit l'échéance d'une maladie qui l'impactera dans ses capacités cognitives et dans son autonomie. Donc on est à un moment révolutionnaire et les politiques ne s'en rendent pas compte. On est dans la chronicité. Alors, il y a un modèle, et c'est là où je rends aussi hommage à France Alzheimer, c'est une maladie de l'extrême, c'est une maladie chronique au long cours, qui demande des solidarités pour éviter des dépendances. On peut répondre au jour le jour, même si on n'a pas les traitements, par un environnement, par ce qu'on appelle l'approche non médicamenteuse. Bref, il y a toute une innovation, et le fait d'être inattentif aujourd'hui à ces questions, à mon avis, posera les vraies questions ensuite du nombre des personnes qui seront dans une situation sans véritable prise en soin.
Joël Jaouen, vous les sentez au sein de l'association, ces changements décrits par Emmanuel Hirsch aussi, avec cette population plus jeune ?
Complètement, complètement. À propos de la population jeune, moi je voudrais vous livrer une réflexion que j'ai entendue l'autre jour de responsable de l'ARS, hein, où je proposais justement qu'on se mette autour d'une table et qu'on commence à prendre en considération tout l'accompagnement, la problématique du malade jeune. On m'a fait une réponse terrible. On m'a dit, mais écoutez, ils ne sont pas assez nombreux. Moi, ça me motive, cette réponse. Au contraire, il faut faire quelque chose pour eux, parce que justement, si la volonté de nos pouvoirs publics, c'est de dire qu'ils ne sont pas assez nombreux, non, nous, associations, on va se positionner.
Surtout, ça serait très injuste, parce que vous avez des plans maladies rares, en fin de compte, une personne sur 2000, enfin, je veux dire...
Donc, je trouve ça motivant, moi.
Non, je trouve qu'il y a une vraie relégation, et j'allais dire, on s'est habitué à considérer qu'il y a des citoyens de second ordre. C'est-à-dire les gens qui ne sont plus en capacité de faire valoir leurs droits, y compris chez les proches qui sont au quotidien avec leurs malades, sont considérés comme des citoyens qui n'ont pas de droits. Mmh. Et là, c'est une vraie revendication politique qui, aujourd'hui, le 21 septembre, se mobilise parmi les responsables publics pour nous dire l'intérêt qu'ils accordent à cette réalité de l'Alzheimer. C'est des questions qu'on peut se poser. Mmh.
Professeur Sekal dit récemment des chercheurs, pour évoquer le volet justement recherche et science, ont montré que la maladie pouvait commencer par un stade silencieux, pouvant durer plus de 10 ans. Le bas bruit au fond de la maladie d'Alzheimer, évidemment sans aucun syndrome clinique exprimé. On ne peut rien observer donc à ce stade pour améliorer la détection.
Oui, alors on va dire que c'est la maladie biologique. Hein, la maladie biologique, au sens biologique du terme, commence à s'installer probablement 15, 20, peut-être même plus longtemps avant que les symptômes n'apparaissent. Hein, 20 ans avant que les symptômes n'apparaissent. Mais il faut bien comprendre que cette maladie biologique ne va pas forcément s'exprimer
en maladie d'Alzheimer.
Et que le malade reste celui qui souffre de symptômes. Donc distinguer effectivement la maladie, la recherche sur la maladie, qui est extrêmement importante, notamment dans ces phases très précoces, parce que si l'on veut agir, on sait maintenant que c'est probablement très précocement qu'on sera efficace. Et en même temps, comme l'évoquait Emmanuel, comme l'évoquait M. Jaouen, prendre en compte la question du malade, de la personne qui souffre et qui est en souffrance. Et donc c'est un paradoxe et c'est très compliqué.
À partir de quel moment on peut lui annoncer justement qu'on voit quelque chose ? Enfin, c'est quand même une responsabilité de la part du médecin qui est très importante quand même. Et là aussi, il y a des vraies questions éthiques sur ce qu'on dit au malade.
Au jour d'aujourd'hui, en pratique clinique courante, on fait le diagnostic de maladie à des personnes qui souffrent de la maladie, qui ont des symptômes, qui sont gênés dans la vie quotidienne. C'est ça la pratique médicale. Maintenant, il est vrai que dans le domaine de la recherche, on est amené à rencontrer des personnes qui sont probablement porteurs d'une maladie biologique, en tout cas d'anomalies biologiques, qui sont des facteurs de risque très importants pour développer plus tard une maladie. Donc là, effectivement, ça pose des problèmes éthiques pour aborder ces personnes à ces phases extrêmement précoces du processus, pour les convaincre aussi de participer à la recherche, parce que ça, c'est également très important. On fait de la recherche non pas sur le patient, mais avec les patients et avec les personnes, et sans leur collaboration, ça ne marche pas. Mais ça pose effectivement des questions éthiques.
Ça permet de dire des questions éthiques et politiques, parce qu'avec les tests, maintenant que vous pouvez... Donc les gens pourront demain aspirer à connaître leur statut par rapport à l'évolutivité possible, notamment si dans une famille ils ont rencontré la maladie d'Alzheimer, et ça va poser la question de l'accompagnement. Alors quand vous avez des chercheurs qui vous disent aussi le fait de savoir suffisamment tôt d'une manière précoce permettrait peut-être de bénéficier de molécules qui ne seraient pas efficaces si on les donne trop tardivement, ça posera vraiment une question sociétale. Et là vous avez présenté des chiffres, imaginez les chiffres qui apparaîtraient si demain on faisait sur les populations un dépistage, en tous les cas une investigation pour savoir qui porte ou pas la possibilité de développer, avec toutes les incertitudes d'ailleurs que ça apporte.
Ouais. Il faut dire à votre avis ou pas ? Alors une personne qui pourrait développer mais dans 20 ou 30 ans une maladie d'Alzheimer...
On est dans un contexte où les gens veulent être de plus en plus autonomistes. Ça c'est théorique. Il y a également à permettre à la personne d'espérer. Alors regardez le domaine du sida, toutes les évolutions qu'il y a eu. il y a les années 80-85, on était démunis. Aujourd'hui, on a des ressources importantes. On nous parle maintenant du test minute. Les personnes sont dans une autre configuration dans leur volonté de savoir quand ils savent qu'il y a une réponse thérapeutique, mais un autre point, une réponse aussi sociétale. Parce que savoir cette maladie, c'est affronter le regard des autres. Il y a des études qui ont été faites. C'est affronter aussi une discrimination.
Bien sûr.
Et regarder dans l'emploi, une fois que vous savez que vous avez un statut identifié Alzheimer. C'est ces questions qui posent vraiment la question du politique. Donc je ne répondrai pas à cette question, je crois que c'est des questions individuelles.
Ouais.
Mais ce que je me permets juste de rendre un hommage à des personnes comme Mathieu, c'est les professionnels, notamment dans les centres mémoire ressources, ont développé une réflexion extraordinaire ces dernières années sur l'accompagnement à la fois de la demande, mais aussi de la remise.
Mais ce sont des nouvelles questions qui se posent avec l'amélioration des outils utilisés pour dépister ces maladies.
Mais effectivement, le point qui est évoqué, et ça je pense qu'effectivement France Alzheimer joue un rôle très important dans ce domaine, c'est l'évolution de la représentation de la maladie. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui bien entendu, on a une représentation très négative de cette pathologie, et il faut faire absolument évoluer cela. Moi je connais des malades, certes, peu touchés, mais qui continuent à travailler. Il y a vraiment un effort à faire, et France Alzheimer est, je pense, l'un des principaux acteurs de cette évolution pour, je dirais, positiver, entre guillemets, cette maladie qui est vraiment mal vécue encore.
Mathieu dit quelque chose de fondamental d'un point de vue éthique et sociétal. Au lieu de regarder la personne sur ce qu'elle ne pourra plus faire, regardons-la sur ce qu'elle fait encore. Et on est surpris, stupéfait de voir une personne dont on dit qu'elle est affectée dans ses facultés cognitives, qui est capable d'une créativité, d'une vie sociale, d'une vie relationnelle inattendue. Donc c'est vraiment le regard qu'on porte, et les médecins sont de plus en plus attentifs, non pas à dire le verdict d'une maladie qui mène vers la désespérance, mais tout ce que vous avez encore à vivre au quotidien, et c'est dans votre enquête de France Alzheimer, et vivre au quotidien, vivre la vie.
On en parlera tout à l'heure. Un message pour vous, professeur Sekaldi, Marie-France, pourquoi certains gériatres qualifient Alzheimer des patients atteints de problèmes de mémoire ou de comportement alors que leur état est lié à des problèmes de sénilité dus à l'âge?
Justement parce que la sénilité liée à l'âge est très souvent en relation avec une pathologie Alzheimer. Mmh. Et ça, on le sait depuis à peu près une vingtaine d'années.
Pourquoi aucun traitement efficace pour l'instant, selon vous?
Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que la recherche sur les Alzheimer, on en parle beaucoup, mais elle est récente. Quand on compare au cancer, les premiers médicaments qui ont été labellisés pour le cancer, ça date des années 60 du siècle dernier. Nous, le premier médicament qui est sorti avec une autorisation pour la maladie d'Alzheimer, c'est dans les années 90. On a 30 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la recherche fondamentale est très très active, heureusement. Et il y a énormément de publications.
On s'en fait l'écho régulièrement. Hein.
Voilà. Mais c'est un sujet extrêmement complexe. Mmh. Et encore récemment, on a décrit de nouveaux acteurs, de nouvelles protéines qui seraient éventuellement impliquées. Donc, il faut tenir compte de cette complexité. Le troisième élément aussi, c'est que c'est un enjeu majeur de santé publique. Les laboratoires le savent bien et de temps en temps, ils se précipitent un peu pour essayer de tester des molécules. C'est vrai qu'il y a eu plus de 1000 essais thérapeutiques qui ont été faits à ce jour, testant plus de 250 molécules qui se sont avérées inefficaces. Or, il y a vraiment la nécessité de regarder de manière très précise ce qui se passe au niveau fondamental, au niveau de la cellule, au niveau de ce qu'on appelle la préclinique, c'est-à-dire chez les modèles animaux, dans les modèles animaux, pour avoir des molécules qui aient une chance de marcher. Et puis enfin, le dernier point, c'est que faire des essais thérapeutiques dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, c'est de plus en plus complexe. C'est de plus en plus long, ça nécessite de plus en plus d'expertise. Et c'est un édifice extrêmement fragile. Et la recherche clinique, au jour d'aujourd'hui, n'est pas le domaine le plus aidé dans notre pays.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous. La parole des malades, c'est récent. On en discute dans un instant. Et puis bien sûr, l'aide aux aidants. Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Tête au Carré et Radiohead à l'instant.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
Le professeur Sekeldi, Emmanuel Hirsch et Joël Jaouen pour l'association France Alzheimer, nous invités donc pour cette journée mondiale. Emmanuel Hirsch, pour la première fois, donc la parole a été donnée aux malades au travers d'un sondage OpinionWay rendu public il y a quelques jours. Pourquoi ce travail n'avait jamais été fait avant ?
Je rappelle d'abord que la parole a été donnée aux malades déjà dans le domaine du sida, ensuite dans le domaine du cancer avec des états généraux.
Mais pas
et que très souvent,
France Alzheimer. Précises.
Je pense que d'abord, il y a des paroles qui sont inaudibles ou qu'on ne veut pas entendre. Où on considère a priori que la personne ne sera pas en capacité de dire ce qu'elle vit, puisqu'elle est atteinte de maladie d'Alzheimer, sentant on sait qu'elle a quand même quelque chose à dire, même si c'est fragmentaire et que la maladie évolue.
Oui.
Et là, il y a une éruption, alors je vais dire, dans un contexte assez inattendu, d'une parole vraie et d'une parole qui surprend, parce que c'est pas une parole uniquement en demande de science et de médecine. C'est « je veux vivre au quotidien dans la cité ». Et c'est ça qui me paraît le message le plus fort. Le 5 et 6, on va à nouveau en octobre discuter de la fin de vie. Donc c'est un sujet très important puisque c'est une législation qu'on nous promet. Ce que les gens malades veulent, c'est au long cours être certains qu'ils peuvent faire confiance à la cité. C'est-à-dire que le jour où on ne serait plus en capacité d'être autonome, la cité apportera des solidarités. Ils veulent jouer leur rôle dans la cité jusqu'au bout. Ils veulent être reconnus dans leur famille jusqu'au bout. Ça veut dire que c'est pas uniquement la science. On sait très très bien que c'est comme dans les années sida qu'il va falloir attendre, patienter d'une certaine manière. Mais il faut patienter humainement avec des réponses politiques. Donc, on a une nouvelle parole. Et la parole, c'est pas une parole compassionnelle. C'est une parole très surprenante. Je l'ai vu encore hier quand je suis allé dans votre village. Alzheimer, c'est des gens qui sont parmi nous, qui sont solides, qui disent des valeurs de la démocratie, qui disent des valeurs de la dignité et qui disent aux professionnels, on est à vos côtés, ils n'attendent pas tout de la science, ils veulent jouer leur propre rôle. Et un dernier point, vous allez voir, je suis assez lyrique, je trouve que France Alzheimer est de ce point de vue-là une association assez emblématique. Des aidants qui s'ouvrent à la cité. Quand vous allez sur le terrain, et moi depuis que je dirige l'espace éthique national, je suis allé beaucoup sur le terrain, vous voyez que la cité se mobilise plus que les politiques ne le pensent. C'est-à-dire les gens n'ont pas une crainte aussi effrayante de la maladie neurologique dégénérative, pour autant qu'ils soient en contact, en réseau, en relien, en lien. Et donc aujourd'hui, il faut soulever en quelque sorte le couvercle et dire ce sont des personnes parmi nous et en plus qui ont apporté beaucoup à la démocratie.
Joël Jaouen, en vous adressant directement donc à ces personnes malades, là, vous alliez un peu vers l'inconnu quand même, non ?
Tout à fait, mais je pense que c'était important pour la première fois. Vous savez, je suis un ancien aidant. Moi aussi, je me suis posé des questions.
Vous avez dit votre mon papa.
Je suis un ancien aidant qui s'est dit... Vous savez, la question récurrente, c'est tout simplement, j'ai pas le talent de M. Hirsch pour vous expliquer ça. La question, elle est très simple. Ont-ils des moments de lucidité ?
Oui.
C'était la question, c'est la question basique. C'est la question qu'on rencontre dans les témoignages, dans les échanges que nous avons. Et je crois qu'on a des, non pas des éléments de réponse, j'ai envie de dire que pour la première fois, on a des réponses. Des réponses qui nous font un petit peu changer le regard. Je peux vous avoir une toute petite anecdote personnelle. Il m'est arrivé de parler en présence avec plusieurs personnes. Mon papa était présent dans la pièce. Et quand ils sont partis, il m'a simplement dit « c'est de moi que tu parlais ».
Oui. Professeur Sekeldi, la lucidité justement dont parle Joël Jaouen, des malades, on ne s'en rend compte qu'aujourd'hui, franchement ?
Non, je crois que là, c'est la parole qui a été donnée donc à des patients, et donc effectivement, ça c'est important. La lucidité, vous savez, c'est compliqué à aborder. Il y a des patients qui sont en début de maladie, qui ne sont pas conscients de leurs troubles de la mémoire, qui ne sont pas lucides sur leur propre fonctionnement. Il y en a d'autres qui sont plus avancés dans la maladie, qui effectivement ont une lucidité qui diminue, mais qui gardent des moments de lucidité, de détresse et de souffrance. Donc la conscience des troubles est extrêmement variable d'un sujet à l'autre, mais il est certain que même à une phase avancée de la maladie, il y a des moments de lucidité, il y a des moments de présence. Absolument. En fait, il y a des fenêtres où on peut effectivement communiquer avec eux.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a un concept qu'on développe de plus en plus. Pendant des années, on nous a parlé de la présomption d'incompétence. Une personne, dès lors qu'elle était diagnostiquée Alzheimer, d'ailleurs on ne s'adressait pas à elle, on s'adressait plutôt aux proches, et puis elle était incompétente. Aujourd'hui, maintenant, c'est la présomption de compétence. Mmh. Et tout ce qui modifie le regard qu'on porte sur l'autre, c'est considérer la personne à l'instant présent pour ce qu'elle est. Et également, quand elle ne peut plus s'exprimer, elle a une histoire, elle a eu un passé, elle a eu des liens, des réseaux qui demeurent. C'est-à-dire que c'est pas parce que la personne a la capacité d'exprimer quoi que ce soi, qu'elle n'a pas une capacité de consentir et de participer à la vie sociale, ne serait-ce que pour ce qu'elle a été. Le tout, c'est le reconnaître et ne pas abraser l'identité de la personne parce qu'elle a un statut Alzheimer.
Justement, ce témoignage de Jackie, mes deux beaux-parents sont atteints d'Alzheimer, nous avons dû les placer en maison de retraite. Mon beau-père, moins atteint pour l'instant, tourne comme un lion en cage dans l'unité spécialisée. Il est espagnol, son français disparaît de jour en jour, il est donc très peu sollicité et décline rapidement. Comment faire pour ralentir le processus ? Professeur Sekaldi.
C'est très très difficile, surtout à des phases avancées, de ralentir le processus. Voilà. Le ralentissement du processus que la recherche essaie d'atteindre, c'est à des phases relativement précoces. Je crois qu'à des phases avancées comme celle-ci, le but c'est avant tout de soulager, d'éviter les complications, car on est à une phase, du point de vue médical, il y a bien d'autres problèmes, mais on est à une phase de la maladie où il y a de nombreuses complications médicales qui peuvent survenir. Donc c'est une prise en charge complexe qui fait appel essentiellement à une prise en charge qui dépend beaucoup du personnel, de l'environnement, mais qui fait aussi appel à une prise en charge médicale. C'est un ensemble d'intervenants à ce stade-là qui peuvent un peu soulager, un peu aider. Ralentir le processus, c'est quelque chose de très compliqué.
Je peux me permettre une observation. Vous avez dit, en prenant la question, placer en institution. Déjà, vous voyez le mot placement en institution, accueilli en institution. Et il faut voir les efforts que font aujourd'hui les institutions pour accueillir, c'est-à-dire créer les conditions d'une hospitalité avec un projet de vie, y compris en institution. En tous les cas, je me permets cette petite nuance pour dire, vous voyez, les mots qu'on emploie stigmatisent ou pas. Oui. Et là, on donne de l'ouverture quand on dit, effectivement, il y a une hospitalité possible.
Joël Jaouen, votre réponse.
Oui, je voulais rebondir un petit peu sur le témoignage. Je crois que le témoignage dit que la personne revient, est d'origine espagnole.
C'est ça.
Et revient petit à petit vers sa langue d'origine.
En tout cas, son français disparaît de jour
Absolument.
En jour.
Absolument. Mais voilà, ça, moi, je suis aussi témoin sur le terrain. Et une difficulté supplémentaire pour l'aidant, pour la communication. Je connais l'exemple d'une dame d'origine cambodgienne qui n'échange plus du tout avec son conjoint, qui a des difficultés à comprendre, et ça rajoute encore une complexité au quotidien.
Extrait du film Still Alice avec Julianne Moore.
Ça fait quel effet ? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi ?
Bon, disons que c'est un peu variable. J'ai des jours avec et des jours sans. Dans mes bons jours, j'arrive à presque passé pour une personne normale, mais dans mes mauvais jours, j'ai l'impression de ne plus me retrouver. Et j'étais depuis toujours caractérisée par mon langage, mon intellect, ma facilité d'élocution. Et aujourd'hui, par moments, je vois les mots là, suspendus devant mes yeux, et je n'arrive pas à les attraper. Je ne sais plus qui je suis, ni ce que je vais perdre encore. C'est gentil de demander.
Voilà les questions donc de ce personnage dans ce film, Still Alice, atteinte par la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qui ressort alors de cette enquête de la parole des malades, Emmanuel Hirsch ?
Dans Still Alice, il y a un enfermement, vous avez vu le huis clos entre un couple. Il demande de l'ouverture, de la reconnaissance sociale, il ne demande pas des droits abstraits. Il demande également d'être reconnu dans leur droit d'exister et de ne pas être parqué dans un espèce de territoire un petit peu marginalisé qui serait la maladie. Il demande aussi la reconnaissance d'aide aux aidants. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y a 40% des aidants qui, finalement, se négligent, donnant toute priorité à leurs malades, donc étant souvent dans un système un peu enfermé,
disparaissent avant même leur malade.
C'est des éléments qui interrogent nos solidarités. C'est pour ça qu'on est en train de développer avec Voisins Solidaires une dynamique en disant comment on peut se mobiliser, comme l'association le fait, France Alzheimer. Donc, ce que disent les personnes malades, c'est surtout nous sommes membres de la cité, nous voulons être reconnus non pas comme des malades dépendants, défaillants par rapport à une certaine forme d'idéologie de la réussite, de la performance, de l'efficacité, de la mémorisation, de l'immédiat. Comment rendre, et je termine sur ce point, notre cité accueillante ? Et c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies aujourd'hui, ça accentue la dépendance que de ne pas apporter des réponses spécifiques, alors qu'on pourrait aménager avec les nouvelles technologies l'environnement de la personne pour lui permettre d'être plus longtemps chez elle. Bref, il y a tout un ensemble de réponses. On a le sentiment, mais c'est un sentiment de citoyen que j'exprime, qu'on est assez indifférent à cette cause. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'est une cause qui peut être gérée par des professionnels, alors que c'est à la cité aussi de prendre le relais.
Allez, sur la parole des malades. Avant de parler des aidants, dans la dernière partie de l'émission.
Sur la parole des malades, un petit peu pour rester dans l'esprit de M. Hirsch, qu'il soit dans la cité, moi je vous citerai un concept que nous avons, qui fonctionne très bien, il s'appelle un café mémoire. Replacer le binôme aidant-aidé dans une proposition très simple, là où il y a la vie, Là, il y a la représentation de la société. On invite dans nos concepts de café mémoire, on se donne rendez-vous aux familles, faire ce qu'ils faisaient avant et ou continuer. Je rajouterai quelque chose de très important. C'est dans l'air du temps, on entend parler de le lien social. Mais écoutez, nous, on est dans le concret. Mmh. On permet de le maintenir, voire de le recréer.
On parlera des aidants avec vous dans un instant. Viron nous dit ceci, le coût d'une telle maladie, professeur Sekaldi, sera-t-elle supportée par les générations futures? La prévention serait-elle moins coûteuse?
La prévention est un objet de recherche. C'est-à-dire, c'est absolument fondamental, effectivement, de cibler les populations qui feraient l'objet de programmes de prévention. Il y a de la prévention qui n'est pas très spécifique, hein, qui consiste à un certain nombre de mesures qui ne nécessitent pas l'identification d'une cible précise. Il y aura une prévention plus ciblée. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on a actuellement des biomarqueurs qui permettent de repérer une certaine pathologie biologique dans le cerveau de certains patients. Il y aura peut-être un moment donné où, effectivement, il y aura une prévention spécifique pour cette cible-là. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution, il faudra qu'il y en ait une. La recherche doit progresser. Il ne peut pas en être autrement, car c'est un fléau énorme. C'est un tsunami que beaucoup de politiques ignorent ou feignent d'ignorer, parce qu'il est compliqué. Mais la recherche est un élément essentiel. Il faut soutenir la recherche, il faut continuer le cap de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Il faut aller au-delà du plan Alzheimer que nous avons vécu, et notamment avec l'aide du plan maladie neurodégénérative, garder le cap pour essayer de trouver des solutions. Mais donc, il faut aider la recherche.
Est-ce la prévention fait partie de la recherche. Le reste à charge pour la famille au domicile, c'est aux alentours de 1500 euros.
Je voulais en parler.
C'est-à-dire la précarisation, à part la précarisation existentielle, est liée également, ou se rajoute à cette précarisation, la précarisation économique. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes manières de vivre la maladie. Soit vous êtes dans un environnement soutenant, soit vous êtes solitaire, précaire, et c'est tous ces éléments qui doivent être pris en compte dans une politique. Placer une personne, ça a été employé tout à l'heure le mot placement, c'est pas placer, c'est orienter une personne vers une institution, c'est 3-4 000 euros. Voilà, c'est tous ces éléments à prendre en considération aussi dans l'approche que les familles ont de cette maladie.
Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres messages pour vous, franceinter.fr.
Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you,
Johnny Delusional avec FFS à l'instant sur France Inter.
Sa présence est là, mais on n'est plus ensemble. On n'a plus de conversation parce qu'elle cherche ses mots. Les mots ne viennent plus. Il y a un tiroir qui est fermé, puis ça ne s'ouvre plus.
Physiquement, rien ou presque ne trahit la maladie de Jacqueline Boquet. Pourtant, le diagnostic est tombé il y a 5 ans, Alzheimer, et le quotidien des deux époux n'a plus jamais été le même.
Tu restes là.
Je ne sais pas.
Non, on va s'habiller parce qu'on va à Grugny maintenant. Au revoir.
Grugny, c'est une structure d'accueil de jour où Jacqueline se rend deux fois par semaine, de 9h à 17h.
On est dans les temps. C'est comme d'habitude, Madame Boquet.
Oui.
Voilà.
Pour lui, c'est un répit, 2 jours de repos par semaine, un soutien, des conseils pour garder le lien, puisque la communication ne passe plus par les mots.
Voilà, extrait d'un reportage en Seine-Maritime pour France 3 Haute-Normandie en 2012. Un répit, justement, du repos. Joël Jaouen, vous qui êtes le président de l'association France Alzheimer. D'abord, pour juste terminer sur l'enquête auprès des malades, la parole des malades, que disent-ils précisément des personnes qui les aident?
Bah, je crois qu'on vient de prendre un message en pleine figure, si vous me permettez l'expression. Ces interrogations que nous avons maintenant, c'est eux qui nous disent, mais nous sommes conscients que nous sommes une charge pour vous. J'ai envie de dire que par pudeur, on dirait qu'il y a un sentiment de protection vis-à-vis de celui qui devient pourtant celui qui va qui a en charge le malade. Je crois que ce grand message, cette grande réponse qui nous arrive, je crois qu'il faut améliorer, pas le changer, peut-être le regard, parce que aller dans le sens de l'indulgence vis-à-vis de ces êtres humains, et je vous rendez compte que j'ai pas employé le mot malade.
Vous savez que c'est une expression de la présidente de France Alzheimer 93, Catherine Olivet, qui dit qu'il faut distinguer l'aidant de l'aimant. Et une des grandes tragédies pour l'aidant, c'est quand du jour au lendemain, le mari ou la femme sont dans un rôle finalement de paramédical. C'est-à-dire que la relation naturelle qui s'était développée à travers les années est remise en cause par l'évolution de la maladie. Et je trouve qu'on doit être sensible à ce que vivent au quotidien effectivement ces présences aidantes ou aimantes qui passent quelquefois 6 à 7 heures par jour, quelquefois en dehors même de leurs activités professionnelles, à s'investir auprès d'un proche en ayant le sentiment, cet aidant, que ce qu'il fait, personne d'autre le fera à sa place. C'est-à-dire il y a aussi un engagement moral. Et on a évoqué tout à l'heure l'institution. Pour l'aidant, le jour où il ne peut plus garder son malade au domicile, c'est un conflit de valeurs, un conflit de loyauté qui déchire et quelquefois qui mutile, puisqu'on a voulu accompagner. C'est ces réalités dont il faut prendre compte. Il y a la maladie d'Alzheimer et puis au quotidien, comment on peut répondre à ces situations, comment on peut être solidaire de ces personnes, comment on peut également aller avec une personne Alzheimer, passer un peu de temps pour éviter à l'aidant d'être constamment là dans un huis clos.
Joël Jaouen, justement, aider une personne malade, c'est y consacrer la plupart de son temps.
Complètement, mais je voudrais simplement, une fois de plus, rebondir sur ce que vient de dire Monsieur Hirsch. Je pense que moi, tout aidant est un aimant au quotidien. Consacrer du temps, mais bien sûr que vous consacrez du temps. Les chiffres disent 6h30 par jour, mais si on reste dans les chiffres, c'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end. Vous pouvez même pas demander de RTT, non plus on vous en donnera pas.
Ouais. L'épuisement des aidants, justement, professeur Sekeldi, vous en êtes le témoin aussi.
Absolument. Et dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, un certain nombre de mesures avaient permis d'identifier cette souffrance des aidants, de les aider médicalement aussi. Les aidants se négligent. Ils ont un taux de morbidité, de mortalité bien plus élevé que des personnes qui vivent avec des conjoints non malades. Donc c'est un vrai problème dans le médical. C'est aussi un sujet de recherche, d'ailleurs, dans le domaine aussi des sciences médicales. Humaines. Les sciences humaines et sociales, ouais, il faut aussi chercher les moyens d'aider les aidants.
C'est pour ça que les réponses en termes de répit, tout à l'heure vous avez évoqué, Joël Jaouen, la question des cafés mémoire, mais vous avez aussi maintenant des centres qui sont au niveau national présents pour accueillir au quotidien des personnes. Ça permet une rupture, c'est-à-dire la personne atteinte de la maladie va passer une journée dans un contexte où il y aura toutes sortes d'activités, puis l'aidant pourra retrouver aussi sa place quand vous organisez des séjours vacances aussi. C'est-à-dire, pour aider au quotidien une personne 24 heures sur 24, il faudrait être un héros. Ouais. On a besoin de soutenir ces personnes et de les reconnaître. Ce qu'elles demandent aussi dans toutes les enquêtes, c'est de la reconnaissance. C'est-à-dire, elles ne demandent pas à ce qu'on finance l'aide d'une manière outrancière, elles demandent de la reconnaissance sociale. Et elles ont le sentiment que la maladie envahit tout et qu'elles deviennent aussi invisibles que leurs malades.
Comment on accompagne au mieux une personne aidant un malade, justement, Joël Jaouen? Quelles sont les pistes? Être accompagné, justement, ne pas laisser les aidants seuls?
Alors, ne pas laisser les aidants seuls. Nous, association, nous avons beaucoup de concepts que nous faisons fonctionner. On a parlé des cafés mémoire, nous avons des haltes-relais, nous avons des ateliers d'art-thérapie. Tenez, je ne résiste pas au plaisir de vous dire, moi, mon département de Finistère, on vient de faire un atelier de rigologie.
Ah tiens.
Pour les malades. Vous avez participé.
Et pour les aidants.
C'est une nouvelle science. Oui.
Je sais pas, je vous laisse l'appréciation.
Ah ben, rigologie, vous laissez entendre quand même.
Mais écoutez, vous voyez, ça vous fait sourire. Ça vous fait sourire, et à partir du moment où ça fait sourire, le sourire, on est bien quand on sourit. Ben écoutez, un malade hilare, forcément l'aidant est content. Et si le binôme est content, c'est notre vocation, nous les bénévoles. C'est à ça qu'on sert. C'est pour ça. Voilà, voilà, on sait qu'on se rend utile. Simplement aussi sur dans le domaine de l'aidant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'important. Le système, comme moi je l'appelle, met l'aidant au cœur du dispositif. Vivons à domicile. Bravo, très bien. L'aidant est incontournable. Dans la pathologie de la maladie d'Alzheimer, c'est un défi qui n'est pas toujours relevable. Et quand l'entrée en établissement devient inéluctable, c'est une situation d'échec. Mmh. Et je crois que l'échec rajoute de la souffrance à la souffrance. C'est la première fois qu'on va confier son malade. Mais je pose une question de fond, et nous, nous y réfléchissons au sein de l'association. Qu'est-ce qui est prévu pour l'aidant dans ce passage ?
Alors justement, quelle réponse ? Professeur Sekaldi ?
Ah, je ne sais pas ce qui est prévu par les pouvoirs publics pour l'aidant dans ce passage, mais il est certain qu'une entrée dans un établissement doit être préparée, doit être accompagnée, et que rester à domicile à tout prix n'est pas la solution. Mmh. Loin de là, on ne peut qu'aggraver certaines situations dans certains cas. Donc je crois que chaque praticien, chaque médecin qui est impliqué dans cette maladie, qui est au contact des malades et des aidants, a conscience de ces difficultés. Et souvent, d'ailleurs, ce sont les médecins qui proposent à l'aidant de faire cette démarche, d'entrer du patient dans une institution.
La vraie question, c'est comme l'anticipation.
Pour terminer.
C'est l'anticipation et puis l'accueil dans les institutions. Et j'observe quand même que quelquefois, les institutions sont des lieux privilégiés par rapport au domicile, qui peut être aussi le lieu de la maltraitance. Mmh. Il faut voir aussi ce qu'est le confinement au long cours, en duo, d'une certaine manière, dans un lieu sans ouverture. C'est pour ça que je milite, moi, pour qu'on socialise toutes ces questions, qu'on démédicalise un peu l'approche et qu'on dise comment la société...
Pas trop quand même, Emmanuel. Démédicaliser, mais pas trop.
Démédicaliser l'approche, il n'y a pas de réponse aujourd'hui en termes médicaux.
Moi, je dis...
Ouais, voilà, mieux médicaliser.
Allez, 20 secondes.
On a parlé de la perception de la lucidité du malade. Mais moi, je dirais aussi, attention, soyons prudents sur la lucidité de la situation, de l'évolution de la situation de l'aidant, qui est un petit peu court-circuité par les prérogatives, les pouvoirs publics. Soyons vigilants à la lucidité de l'aidant pour prendre les bonnes décisions au bon moment.
Allez, un site 30ans.francealzheimer.org, il est en lien sur la tête au carré, le village Alzheimer. Absolument. Donc jusqu'à ce soir, c'est à Paris, à la place de la bataille de Stalingrad, et puis un livre qui va sortir accompagné d'une personne malade d'Alzheimer, justement aux éditions Tom Pouce, ça vient tout juste de paraître.
Excellent livre.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans la tête au carré. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaire sensible dans un instant avec vous, quel en sera le thème ?
L'assassinat de Sharon Tate par la secte de Charles Manson, c'était en 1969, et nous en parlerons avec notre invité Marc Villard, romancier et scénariste. Il est notamment l'auteur de Sharon Tate ne verra pas Altamont, c'est un roman fiction autour de plusieurs faits divers, dont celui-là.
À tout à l'heure.